détachement, c'est de l'esclavagisme moderne. Bah, c'est une concurrence extrêmement déloyale.
Ici,
je gagne 1500 euros.
Ben, paga ben.
C'est bien, ça paye bien. C'est mieux qu'au Portugal.
C'est extrêmement précaire. Du jour au lendemain, quand un navire est terminé, c'est plusieurs centaines ou plusieurs milliers de travailleurs qui disparaissent, qui n'apparaissent même pas dans les statistiques du chômage. Il n'y a pas d'indemnité de licenciement à payer, etc., etc.
Pour certaines entreprises, c'est pointé, c'est rentable. En fait, c'est le principe du salarié Kinex. Je prends, j'utilise et je renvoie.
Cela fait plus d'un an et demi que les discussions sont en cours. Lundi, les ministres européens du travail se retrouvent à Luxembourg. Ils espèrent parvenir enfin à un accord. Le sujet de la discorde, les travailleurs détachés. Un dossier complexe dans lequel chaque État défend ses intérêts. Pour la France, par exemple, il s'agit d'éviter le dumping social et de lutter contre la fraude. Et Emmanuel Macron, au nom d'une Europe qui protège, a réclamé que le détachement soit limité à un an maximum. Ce faisant, le président français s'est mis à dos la Pologne et la Hongrie. Pour les pays d'Europe de l'Est, pas question de voir entraver la libre circulation des travailleurs ni la libre concurrence. Quant à l'Espagne, elle mise sur une dérogation pour le secteur des transports. Il faudra bien parvenir à un compromis. La directive européenne de 1996 est obsolète. Rédigée avant l'entrée dans l'Union des pays issus du bloc soviétique, elle ne prend pas en compte les écarts de salaire qui peuvent varier aujourd'hui de 1 à 10. Le texte en projet institue donc le principe d'une même rémunération pour un même travail sur un même lieu de travail. Difficile d'estimer le nombre de travailleurs détachés. Il serait 286 000 en France, un peu plus de 400 000 en Allemagne. Au total, ils ne représentent qu'un à 2% de la population active. Mais la multiplication des dérives et des fraudes déstabilise certains secteurs. Elle alimente aussi la xénophobie. Travail détaché, un cocktail infernal, c'est un magazine signé Marie Viennot. En studio avec nous, Séverine Picard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère juridique à la Confédération européenne des syndicats et merci d'être venue de Bruxelles pour participer à l'émission. Et puis en duplex de Bordeaux, Gilles Savary, ancien député socialiste de Gironde, bonjour.
Bonjour.
Une loi sur le travail détaché porte votre nom, la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale. Nous allons écouter ensemble le reportage de Marie Viennot. Bonjour Marie.
Bonjour.
Pour comprendre les ressorts du travail détaché, vous avez rencontré des patrons et des salariés.
Oui, l'idée c'était de comprendre pourquoi le travail détaché a pris une telle ampleur dans notre pays et quels en étaient les effets à court et moyen terme. Alors les patrons, c'est important de les voir parce que pour qu'un salarié détaché arrive sur notre territoire, il faut que l'entreprise qui l'emploie, en Pologne, en Allemagne ou ailleurs, obtienne un contrat avec une entreprise française. Pour cela, j'ai donc rencontré des entrepreneurs du bâtiment, car c'est dans le BTP que les travailleurs détachés sont en France les plus nombreux. Pour voir du côté des salariés ce que cela change, je suis allée au chantier naval de Saint-Nazaire, car là-bas, l'importation de main-d'œuvre étrangère est ancienne et qu'elle atteint aujourd'hui un quart des effectifs, selon la direction. Beaucoup plus, disent les syndicats et ceux qui travaillent dans les navires. Alors, il y a toujours sur ce sujet une incertitude sur les chiffres, car on ne sait pas si tous les salariés détachés sont déclarés. L'inspection du travail est de plus en plus mobilisée en France, mais ses moyens sont vraiment limités. Le système est-il contrôlable? Peut-il faire autrement que frôler avec la légalité? C'est la question.
Votre reportage commence au Palais des Congrès de Paris, aux 24 heures du bâtiment, une convention qui rassemble tous les 3 ans artisans et chefs d'entreprise. On peut même y croiser le président de la République.
Un petit selfie.
Allez. Voilà, on est aux 24 heures du bâtiment. Emmanuel Macron passe et donc il y a à peu près une foule de 40 personnes autour. Est-ce que vous avez pu lui dire quelque chose?
Non, pas du tout, on l'a aperçu, c'est tout.
Vous lui auriez dit quoi?
Bon, on lui aurait dit que le bâtiment va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Hein. C'est pas gagné.
Ouais. Et voilà. Vous lui auriez parlé des travailleurs détachés ou pas? Et
évidemment, c'est un gros problème. Il y a des métiers dans lesquels, notamment moi je suis peintre, forcément on est beaucoup plus touché. Nous on vend beaucoup de main-d'œuvre. Et forcément, la main-d'œuvre étant moins chère, on n'est pas concurrentiel. Pas du tout. Donc on est obligé d'être beaucoup moins cher que ce qu'on l'était et de préserver quand même les emplois. Voilà.
Vous pourriez avoir recours à des travailleurs détachés?
Non. Non, tant que je pourrais, non. Je préférerais fermer.
Mais vous pourriez?
Non, je pourrais, oui. Ouais. J'aurais l'opportunité. On me le propose.
On vous le propose?
Ouais, mais moi j'ai 50 personnes à nourrir. Hein. Donc je peux pas le faire comme je veux. Et donc je veux commencer par les nourrir eux avant d'en nourrir d'autres. C'est normal.
Merci Président pour la lutte contre les travailleurs détachés.
Continuez.
Le bâtiment sort péniblement de la crise. 2000 emplois ont été détruits chaque mois pendant 8 ans. 176 000 au total. un plan social massif et silencieux. Un nombre d'apprentis divisé par deux. Dans le même temps, le détachement prenait son essor sur les chantiers. Dans quelle proportion, on ne sait pas exactement. Ce qu'on sait, c'est que passer de 6 entreprises à 20 pour un même appel d'offres, cela fait baisser les prix. Jacques Chanu, président de la Fédération française du bâtiment.
Et je me souviens d'une époque où même certains élus, l'état d'esprit a changé, se félicitaient. C'est une déclaration d'un maire que je ne citerai pas. C'est super, en ce moment, je peux me payer 3 écoles pour le prix de 2. Mais à quel prix social ? À quel prix économique ? Payer le vrai prix aujourd'hui est devenu presque une erreur par certains. On a l'impression que de payer le vrai prix, c'est que vous êtes fait avoir. Cette approche du low cost qui a permis une concurrence aussi dans certains secteurs, en fait, pousse les uns les autres à trouver des combines. Voilà, des combines quelquefois légales, mais ça reste des combines pour essayer de faire baisser un prix.
Quand des centaines d'entreprises mettent la clé sous la porte chaque semaine, frauder ou crever, cela peut être une alternative. Et la fraude au détachement a pu être une solution. Aujourd'hui, la filière veut dire non aux abus, mais oui au travail détaché. Alors depuis quelques semaines, une carte BTP est obligatoire pour travailler sur un chantier. Elle ne compte pas les heures, aux forces de contrôle de vérifier que tout est légal.
Dans le travail détaché, si le travailleur détaché est déclaré et qu'il travaille 35 heures, il n'y a pas de souci. Et seulement, c'est que ces gens-là, on les fait travailler 40, 50 heures. Il n'y en a déclaré que 35.
Et les travailleurs clandestins, c'était pire, on pouvait les faire travailler.
Il y en a beaucoup moins quand même, parce que la main-d'œuvre détachée, ça représente beaucoup de monde. Alors que les clandestins, bon, il n'y en a pas beaucoup. Quand même.
Est-ce que vous faites appel aux travailleurs détachés ?
Non, pas du tout. C'est de la saloperie, ça vaut rien. C'est de la crasse.
Et pourtant, il y en a plusieurs dizaines de milliers qui sont employés dans le bâtiment, donc qui les emploie ?
Les mecs qui veulent pas payer de charges, c'est tout. Nous, on paye des charges, hein. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Hein. On sait ce que ça vaut, une heure de travail. Hein. Quand on est en dessous de 15 euros, c'est qu'il y a un loup.
Vous pensez qu'il y en a ici des entrepreneurs qui font appel à des travailleurs détachés ?
Au plus qu'on ne peut penser.
Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous faites appel à des travailleurs détachés ?
Non, pas du tout.
Non.
Et vous ?
Non plus.
Excusez-moi, monsieur, vous êtes entrepreneur du bâtiment ?
Oui.
Est-ce que vous faites appel à des travailleurs détachés ?
Absolument pas, il n'en est absolument pas question.
Non.
Aujourd'hui, il faut faire la distinction entre deux choses. Vous avez le travailleur détaché légal, même celui-ci, je n'ai pas fait appel, et vous avez le travailleur détaché illégal. Et je crois qu'ici, vous êtes dans une fédération qui combat l'illégalité du détachement.
Alors, c'est quelle fédération qui est pour l'illégalité du détachement ?
Mais c'est la fédération gouvernementale, c'est pas comme ça que ça s'appelle, parce qu'ils font rien pour régler le problème, ou pas assez en tout cas, on va dire.
Oui, vous trouvez ?
C'est une concurrence extrêmement déloyale. Le détachement, c'est de l'esclavagisme moderne. Et on se rend compte malheureusement que plus les groupes sont importants, plus l'entreprise est nationale, voire internationale, et plus elle a l'habitude de faire appel à des choses un peu... Enfin voilà.
Et vous avez une entreprise de bâtiment ?
Oui, tout à fait, oui. C'est une caricature extraordinaire que de s'imaginer que tous les travailleurs détachés en France vivent dans des bungalows, dans des caravanes pourries. Ça, c'est tout ce que la presse veut montrer. Mais ce n'est pas tout à fait ça la réalité, quand même. Hein. Pour le donneur d'ordre, il y a un risque réel. Il faut être super vigilant sur la question, quoi.
Donc vous avez eu déjà sur vos chantiers donc des gens qui étaient en travail détaché ?
Oui, bien sûr. On demande à tous les artisans de nous fournir la liste de leur personnel, où est-ce qu'ils sont déclarés et où est-ce que les charges sociales sont payées. On sait tout.
Mais si votre sous-traitant fait appel à une société d'intérim basée à Chypre, comment vous pouvez savoir si les cotisations sociales sont bien...
Notre sous-traitant, il ne fait pas appel à une société d'intérim parce que ça s'appelle ça, la sous-traitance en cascade, et ça, on ne supporte pas l'exercice. Hein. Et si notre sous-traitant fait appel à une société d'intérim, on peut le faire en direct, on n'a pas besoin de lui. Voilà. Mais bien souvent, c'est ce qui... se donnent à ce genre d'emploi sont complètement dans le dumping social, c'est-à-dire que ça leur permet de prendre des marchés à vil prix et derrière de tenter de gagner leur vie malgré ça. Bon, c'est ça qu'il faut condamner. Je pense aussi qu'il n'y a pas un recours systématique, loin de là. Il serait intéressant d'avoir des chiffres. Et il n'y a pas non plus une volonté délibérée de faire appel. Il y a d'abord le premier argument, moi, essentiel pour moi, c'est la pénurie de personnel. C'est la pénurie de personnel. Interrogez des entrepreneurs qui ont besoin d'embaucher des menuisiers, des peintres, des carreleurs, ils vous diront qu'ils n'en trouvent pas. Ça, c'est une réalité. Hein. Ils n'en trouvent pas. Donc, partant de là, il faut trouver des solutions. Et trouver des solutions, parfois, ça implique des dérives.
Nous sommes en banlieue parisienne et j'ai rendez-vous avec l'ancien directeur général d'une entreprise de bâtiment qui a fermé il y a peu de temps. On va lui demander un peu comment se sont passées ces dernières années de crise et quel a pu être l'impact des travailleurs détachés, selon lui.
Je sais que nous avons employé des sous-traitants qui, eux-mêmes, ont pu recourir à du détachement pour rentrer dans l'enveloppe que nous avions pour tel ou tel corps de métier sur nos opérations. Lorsque les prix baissent, il y a trois leviers. Le prix des matières premières. Or, le prix des matières premières était plutôt en augmentation qu'en baisse. Ensuite, le coût de construction du bâtiment. Alors, soit on arrive à améliorer ces techniques de production et de construction qui ont déjà été optimisées et qui sont aujourd'hui bien rodées. Soit on arrive à faire baisser le coût de main-d'œuvre. Donc c'est les trois leviers sur lesquels on peut agir. Bon, la main-d'œuvre, baisser le coût de la main-d'œuvre, il y a des cadres en France du droit du travail, donc on ne peut pas non plus fluctuer rapidement. Essentiellement à cette époque, on agissait sur la main-d'œuvre. On essayait de trouver des moyens de faire baisser la main-d'œuvre sur les opérations en essayant de pouvoir faire baisser ce qu'on appelle le TMH, le temps moyen horaire. On met moins de conducteurs de travaux ou moins d'employés onéreux et on fait appel à soit de l'intérim, soit, si on en a la capacité, on fait appel à du détachement. Donc c'était une solution qui était très utilisée et qui l'est encore aujourd'hui pour pouvoir répondre de façon efficace et essayer de maintenir des marges de façon à maintenir la subsistance des entreprises qui travaillent aujourd'hui sur le secteur du BTP.
Est-ce que le recours aux salariés détachés, c'est une question surtout de coûts ou aussi de pénurie? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent en fait on n'a plus les compétences en France dans le bâtiment.
Alors, on arrive à effectivement une situation de pénurie, mais que nous avons créée nous-mêmes. Avec cette destruction d'emplois ces dernières années, les employés, les ouvriers se sont reconvertis. Donc aujourd'hui, on a quelque part contribué à créer cette pénurie et à délocaliser le BTP. Et donc avoir besoin du recours au détachement, comme ça s'est fait dans d'autres industries ou qui sont parties à l'étranger, que nous avons délocalisées, le BTP, je pense, subira à son tour cette délocalisation de la main-d'œuvre par destruction de la main-d'œuvre et de qualifiée dans un premier temps, et donc une pénurie dans un deuxième temps et un besoin de recourir au détachement.
Délocalisation en France.
Délocalisation en France. C'était quelque chose qui était quelque part inscrit dans la pierre, comme quoi ce n'était pas délocalisable. Aujourd'hui, je pense que la preuve en est le contraire, c'est nous en sommes là.
Il sera bientôt là, tu verras, tu passeras des vacances de rêve. Des restaurants avec vue sur la mer, des spectacles à couper le souffle. Tu te réveilleras chaque jour dans un nouveau coin de paradis.
Nous sommes au milieu du chantier naval de Saint-Nazaire. Ici, on construit les plus grands paquebots du monde, des éoliennes et quatre navires en parallèle. Ici, on reçoit des tonnes de plaques d'acier. On les coupe, on les soude, on les classe. Du bruit tout le temps. Casqués, en uniforme rouge, gris, bleu ou bleu schtroumpf, si on est de la maison mère, par petites grappes, des hommes se croisent sans se parler. Il n'y a pas un employeur ici, mais 2000. STX travaille avec un réseau de 2000 entreprises qui toutes peuvent avoir leurs propres salariés. Gérer la coactivité, c'est un métier. Et c'est une volonté exprimée dans ce fax envoyé par les chantiers navals en 2001 à 20 sous-traitants. Urgent, objet, montage exotique.
Saint-Nazaire, le 25 octobre 2001. Monsieur, comme vous le savez, notre politique de réduction des coûts nous pousse en permanence à trouver des axes de progrès. Un de ces axes se nomme « montage exotique », c'est-à-dire apport de main-d'œuvre en provenance de pays à faible coût. Nous avons identifié quelques pays, Maroc, Ukraine, Portugal, Émirats arabes, etc., qui ont la possibilité de fournir une main-d'œuvre qualifiée, utilisable par les co-réalisateurs, verriers, serruriers, soudeurs inox ou alu.
Co-réalisateur, c'est le nom des sous-traitants, qu'ils soient français ou étrangers. Co-réalisateur, c'est écrit sur leur badge, indispensable pour passer la barrière. Mais réalisateur de quoi? Détaché d'où? En règle ou pas? Comment savoir?
Excusez-moi, vous parlez français?
Non,
Non, et vous venez d'où? No understand.
Where do you come from?
No French, no speak. Okay.
Vous êtes des salariés détachés?
Dobra, c'est too much.
Excusez-moi, monsieur. Vous travaillez sur le chantier?
Non, speaking, je ne parle pas français.
Quelle langue vous parlez?
Non, Romère, non.
Sébastien Benoît, vous êtes responsable CGT ici sur le site de STX. Comment on dit travailleur détaché en polonais?
Ah, je sais absolument pas. Et c'est vrai que à bord, la difficulté, c'est d'avoir la même langue. Alors, je dis pas que tout est simple, mais ce qui est sûr, c'est que la CGT a fait le boulot, en tout cas sur le site, pour qu'ils aient connaissance de leurs droits. Encore une fois, pour nous, c'est pas un problème de nationalité, c'est un problème de statut. Donc, on a fait plusieurs distributions de tracts en 11 langues différentes, dont des tracts en hongrois, portugais, lituanien, polonais, grec. Et donc, ces tracts indiquent les droits qu'ils ont sur le chantier naval. Et c'est aussi une façon de comparer leur situation avec celle des travailleurs locaux.
Loin de la cale, le dépliant de la CGT Naval permet d'engager la conversation un peu plus tard dans la soirée. Le plus jeune prend le dépliant russe.
Oh,
ah, ça c'est intéressant, dit-il. Ça va.
Yeah, ça va.
Ça va pas?
Non.
C'est son salaire horaire qui ne va pas. Il est en dessous du SMIC quand il fait le calcul. Parfois, la lecture du dépliant déclenche un soupir sarcastique. Il prend son téléphone, écrit et me tend la traduction.
J'aime vraiment travailler dans votre pays. Je travaille ici depuis longtemps, mais je m'excuse parce que je ne dirai pas pour l'interview. J'ai peut-être des problèmes. Je ne suis pas membre de l'Union européenne.
Ils sont ukrainiens.
Nous sommes payés ce que on nous a promis lors de notre embauche.
Contrat tacite, un salaire, une carte de sécurité sociale européenne, la paix. En échange, grande disponibilité. Formation sur les chantiers navals de l'ancien bloc communiste acquise. Force de travail directement utilisable. Les chantiers sont en plein boom. 14 navires à construire. Soudeurs, électriciens, charpentiers, tuyauteurs manquent à l'appel. Il y a pénurie de compétences locales. Frédéric Gouraud, directeur de l'agence Manpower de Saint-Nazaire.
Il y a beaucoup de travail à Saint-Nazaire, ça je peux vous confirmer. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de postes. Là, je pense qu'il y a environ 200 à 300 postes à pourvoir à Saint-Nazaire très rapidement, d'ici la fin d'année, sur plein de métiers, aussi bien sur l'activité navale que l'activité aéronautique. Quoi.
Alors aujourd'hui, il y a une des compétences dont on me dit qu'elle est compliquée à trouver, c'est chaudronnier. Vous confirmez?
Ouais, c'est compliqué comme métier. Les jeunes s'orientent moins vers ces métiers-là, ils vont plus vers des études supérieures. Donc on a un décalage entre les besoins des entreprises et les étudiants et les élèves qui sortent des écoles, quoi. Le fait que ça soit aussi des activités qui pendant longtemps étaient cycliques, donc à partir du moment où il n'y a pas de débouché pendant une certaine période sur ces métiers-là, bah, évidemment les jeunes ne vont pas sur ces métiers-là parce qu'ils savent que l'accès à l'emploi va être compliqué. On arrive encore à trouver, si on prend le métier des charpentiers, on a sur les métiers du soudeur, mais on a un vrai sujet qui est un sujet français à mon avis, c'est de travailler sur la mobilité et pas la mobilité étrangère, c'est de faire venir des gens du nord, de l'est qui sont sur des bassins industriels qu'on dit plus sinistrés et les faire venir dans notre région parce qu'il y a de la vraie compétence. Donc là on actionne ce qu'on appelle le grand déplacement et c'est des personnes qui viennent travailler pendant X durée sur notre région et voilà, et qui sont indemnisées en fonction d'eux, quoi.
C'est pour cette raison, d'après vous, qu'il y a autant de recours aux salariés détachés sur les chantiers?
La main-d'œuvre détachée n'est pas la finalité en soi. C'est plutôt d'aller chercher la compétence technique et puis d'avoir des prix de revient qui soient compétitifs pour cette filière-là.
À combien est le TMH dans la navale, le taux moyen horaire? Et ce taux moyen, ce salaire horaire, est-il en phase avec les attentes de la ressource humaine? Pour qui vient de Bulgarie, oui, le salaire ici vaut le coup. Même si on passe toutes ses soirées à regarder la télé avec des collègues, 1500 euros par mois, c'est 5 fois le SMIC du pays.
Si c'est bon, c'est français, c'est bon, pas de problème. La Bulgarie, c'est pareil, c'est bon, c'est la papille.
C'est bien, mais c'est pas payé,
c'est ça? Voilà, c'est la qui, c'est la papille. Moi, je travaille ici.
Celui qui parle français semble être le chef. Il dit être là depuis 5 ans. Tous ont l'air gênés. Le plus vieux sourit.
Ça manque de présence féminine, c'est ça?
Ça, c'est pas bon.
Pour Joan, qui traverse à pied le terre-plein en sortant du travail, c'est un bon deal aussi, ce travail détaché. Même si ses deux filles ados lui manquent, même si ce soi-disant temporaire dure.
Je suis ici depuis 4-5 ans.
Comment c'est ?
Bien.
C'est bien, ça paye bien. C'est mieux qu'au Portugal. Ici, je gagne 1500 euros. Le patron paye le logement, les repas et le salaire. Mais pas le transport, on doit se débrouiller. Et tous les 3 mois, je rentre chez moi, voir ma famille. Pour moi, c'est correct, c'est bien.
Et comment sont les Français avec vous ?
On se connaît peu, mais ils ne sont pas contents. Les étrangers ne sont pas les bienvenus ici. Ce n'est pas du racisme, mais il y a un malaise. L'Europe est ouverte. C'est pour ça qu'on peut venir travailler ici comme un Français. Mais on est mal à l'aise. On sent que les Français aimeraient qu'on parte.
Dans les bars du port, on s'interroge. Le chômage ici à Saint-Nazaire est toujours aussi important. Les salariés détachés ont-ils remplacé ceux qui ont perdu leur poste dans les années de crise, avant la Renaissance ? Ou ont-ils contribué à la renaissance des chantiers ?
Toutes les tôles pour faire les navires, c'est nous qui les déchargeons. Les profilés, c'est nous qui les déchargeons aussi. Les bateaux de secours, c'est nous qui les déchargeons. Hier, on a déchargé les pods, les hélices, les moteurs qui tournent. C'est tout déchargé par des dockers. Tout ça va au chantier. Ouais, ça nous fait quelques journées de travail. Hein. Sur tous les tôles en ce moment, on n'arrête pas.
Et vous, qu'est-ce que vous pensez du fait que les chantiers sont repartis, mais en même temps, il y a eu énormément d'embauches de salariés détachés venus d'Europe ?
Ben, c'est l'Europe, c'est ça maintenant. Je sais pas, c'est un quota sûrement qu'ils doivent avoir, non ? C'est dommage, parce que on a tellement de chômeurs en France, il ferait mieux de faire travailler les gars de France, c'est pas. Je pense, hein, ça serait plus logique, quoi.
Et tous ces pauvres gars-là qui viennent de l'étranger, je les comprends, qui font de l'argent, ils font rien dans leur pays. Ça permet de faire un bateau à pas cher et on a des contrats. Parce que si on était trop cher, il n'y aurait plus de bateau.
Et moi, j'aurais plus de clients. Et voilà. L'affaire est dans le sac. Et voilà, la clé sous la porte.
Tout est fait au rabais. Les années 2000, c'est comme ça.
Les salaires n'augmentent plus, ça, tout le monde le dit. Et les métiers qualifiés sont presque au niveau du SMIC. Le chaudronnier a perdu 3 euros en taux horaire. À prendre, à laisser, pénibilité en sus.
Vous travaillez sur le chantier aussi, vous ?
Moi, ça fait 44 ans que je connais le site.
Moi, j'ai travaillé auparavant avec une boîte espagnole, Spinet, qui avait des sous-traitants polonais, des sous-traitants roumains. Et puis nous, on devait être une dizaine de Français sur un montant chez Spinet. Ouais, c'était une bonne centaine, hein, à bord. Oui, tranquille. Moi, je n'en veux pas, ces gens-là. Mais c'est le système européen là, qui est un peu stupide, quoi. Ouais. Ça me révolterait même un petit peu. Ouais.
Ça révolte beaucoup de gens.
Il y a beaucoup de gens après qui sont sans le travail. Et puis, vous savez, quand on reste sans le travail pendant trop longtemps, on devient vite nonchalant et tout. Nous savons, on a toujours eu du boulot. Alors. Mais toujours en intérim. Ici, en intérim aussi, maintenant, il y a beaucoup de missions de courte durée. 4 heures, une demi-journée, voire un jour, 2 jours. Et puis après, ils n'ont plus besoin de vous.
C'est un monsieur là, qui est devant, et lui conduit les bus des étrangers. Vous pouvez essayer de parler avec lui si vous voulez.
Ah oui, c'est gentil.
Il parle un petit peu français.
Il est salarié détaché mais project manager. Roumain, il n'aime pas ce travail qu'il vient de prendre, ni cette ville, ni son climat. C'est lui qui note les horaires de ses collaborateurs et dresse leurs fiches de paye. Des entreprises comme la sienne, STX en gère 630. Les contrôle-t-elle ? Non. Mais elle réalise des audits et fournit des kits juridiques. Au début, c'était beaucoup plus anarchique, se souvient Alain Georget, délégué syndical CGT. Il a vu son premier travailleur détaché européen en 2001, l'année du montage exotique.
Et je me rappelle très bien, c'était des travailleurs grecs qui tout simplement n'étaient plus payés pour leur salaire depuis 2 ou 3 mois. Et donc ils ont trouvé le chemin de la section syndicale. Ces travailleurs donc, se sont mis en grève pendant 2 mois avant d'obtenir gain de cause. C'est donc ce premier souvenir dont je peux vous parler. Ce qui intéresse la direction des chantiers navals, c'est que c'est extrêmement précaire. Du jour au lendemain, quand un navire est terminé, c'est plusieurs centaines ou plusieurs milliers de travailleurs qui disparaissent, qui n'apparaissent même pas dans les chiffres, dans les statistiques du chômage. Et puis évidemment, il n'y a pas d'indemnité de licenciement à payer, etc. etc. Et puis, ce que deviennent ces travailleurs une fois rentrés dans leur pays, peu s'en soucient.
Est-ce que vous diriez que la situation s'est quand même améliorée ou pas? Parce qu'il y a eu une révision de la directive, enfin en tout cas pour son application. Ensuite, il y a eu une loi Savary qui a aussi de nouveau encadré ce système. Est-ce qu'on a avancé ou est-ce qu'on a fait semblant d'avancer?
Non, il y a quand même un vrai progrès, et le plus notable, c'est celui en matière de logement et d'habitation. Parce que les premiers qui sont arrivés au début des années 2000, c'était parfois vraiment sordide. Il y a du progrès aussi sur, il y a quelques années encore, on s'est retrouvé avec des travailleurs qui n'étaient pas payés du tout pendant plusieurs mois, avec ces margoulins dont je parlais, qui faisaient tourner la boutique une dizaine de mois, qui payaient un peu les salaires, et puis 3-4 mois avant la fin prévue du chantier, se tiraient avec la caisse. De ce point de vue-là, ils ont un peu fait le tri aussi de leurs intermédiaires, mais ça maintient quand même le système global, qui est celui, effectivement, d'heures, enfin, je ne sais pas combien de milliers ou de centaines de milliers d'heures de travail qui ne sont pas payées. Toute la discussion sur le sujet est pourrie par le chauvinisme et le nationalisme qui se répand partout, entre parenthèses, qui n'est pas seulement de droite, hein, qui est aussi de gauche. Hein. C'est compliqué parce que moi, j'ai des collègues au travail que je connais bien. Je les entends dire des trucs souvent, par exemple, je cite bien sûr, font chier ces Polacs. Par exemple, ils acceptent de souder dans des coins fermés, sans aspiration des fumées de soudure. Moi, quand je suis à côté, je m'en prends plein les narines. Enfin, c'est pas simplement que ça sent mauvais, c'est que c'est très dangereux pour la santé. Bon, alors, évidemment, quand on entend font chier ces Polacs, c'est pas agréable à entendre, mais il faut décrypter. Ce qu'il a en tête, c'est font chier ces patrons qui font venir les travailleurs dans des conditions telles qu'on est mis en concurrence et que lui, il n'a pas le choix, il faut qu'il ait du rendement, donc il n'a pas le temps d'installer une installation, et du coup, je me retrouve à être exposé autant que lui. Vous voyez, il faut se méfier des formules. La formulation, elle nous plaît pas, mais ce qu'il y a dedans, c'est pas forcément complètement stupide.
En théorie, si on respecte toutes les règles, un salarié détaché ne doit pas revenir moins cher qu'un salarié français, affirme une étude du Trésor. Mais la dégradation des conditions de travail, elle, n'est pas chiffrable. La sécurité, la santé et l'hygiène font partie du noyau dur des droits français qui s'appliquent aux salariés détachés, mais qui pour contrôler l'effectivité de ce droit ? Ce jour-là, dans Paris, les agents du public sont dans la rue. C'est la fin de la manifestation. Après l'international, surgit un air plus insolite. Dans tous les ministères, ou presque, on supprime des postes. Et on supprime notamment des sections d'inspecteurs du travail en Ile-de-France.
Résistance !
À ceux qui veulent supprimer nos postes, on répond quoi ? Résistance !
Quelques jours plus tôt, ils ont interpellé leur direction. Inspecteurs, inspectrices, secrétaires, les forces de contrôle social sont à bout et refusent de voir leurs moyens diminuer alors qu'on leur dit en plus de mettre le paquet sur le travail détaché.
C'est super chronophage. Courir après les travailleurs détachés, c'est prendre, perdre beaucoup de temps pour des résultats très faibles au détriment en plus d'autres choses. Comme je disais, c'est ça, on court comme des poulets sans tête parce qu'on n'a pas les moyens en fait de réprimer ce qu'ils nous demandent de réprimer. Qu'ils ont eux-mêmes mis en place. C'est-à-dire que avant la directive détachement, on n'était pas concerné par ce problème-là. Ils ont rajouté un problème à toutes les organisations syndicales et à tous les systèmes sociaux en Europe, mais en nous disant, vous allez garder ce problème qu'on vous a créé sous contrôle, et nous, en donnant zéro moyen pour y arriver. Donc résultat net, c'est vraiment... C'est se payer la tête du monde. Structurellement, le bureau de liaison qui ne marche pas, c'est vraiment, c'est un crève-cœur. On nous dit de nous adresser au bureau de liaison, sachant que...
Bureau de liaison des inspections du travail européennes.
Voilà. On nous dit, adressez-vous au bureau de liaison. Seulement, tous les agents qui l'ont fait vous disent, le bureau de liaison ne répond pas, ou ne répond pas, au mieux, ne répond pas dans les délais qui nous permettent de faire un contrôle.
Qu'est-ce que vous leur demandez à ce bureau de liaison ?
Ben normalement, ils font la partie que nous, on ne peut pas faire parce que c'est la partie dans le pays d'origine, qui est la vérification du versement des cotisations dans le pays d'origine déjà. Seulement, le problème, c'est que on a des salariés qui ne nous laissent pas leur adresse dans le pays d'origine. Et il y a même des pays où il y a des directives pour ne pas répondre, quoi. En Pologne, par exemple, moi, j'ai jamais eu un retour polonais. Hein. Alors, ça dépend aussi après des inspections du travail. L'inspection du travail roumaine, par exemple, coopère, ce qui fait qu'on arrive à faire des procédures sur les Roumains, mais pas sur les Polonais. Moi, c'est Jérôme Beuzelin, du syndicat Sud Travail Affaires Sociales. Je suis dans une unité régionale de contrôle du travail illégal.
Une des unités spécialisées dorénavant dans le travail détaché. Les contrôles ont augmenté, il y en a plus de 1500 par mois. Mais les amendes, quand il y en a, ne sont payées qu'une fois sur trois. Les entreprises condamnées disparaissent, leurs propriétaires sont introuvables, sociétés boîte aux lettres, sous-traitance et intérim en cascade. Ludovic Le Serre forme les brigades spécialisées sur le détachement. Il décrit un mécano aussi complexe à démêler que des trusts financiers.
Quand on arrive à traiter à deux dossiers de détachement dans l'année, c'est déjà très bien, quoi. Quand vous mettez ça en rapport avec le nombre de détachements qu'il y a en France, ben vous apercevez que oui, on n'est pas en capacité de le faire. Et ces montages de plus en plus complexes, en effet, ce qui se passe actuellement, c'est, on s'en aperçoit dans l'événementiel notamment, où en fait vous avez une entreprise française qui sous-traite à une entreprise étrangère qui elle-même va resous-traiter à uniquement des indépendants. Et donc des indépendants qui eux sont étrangers mais qui ne sont plus soumis aux déclarations de détachement parce qu'ils interviennent en tant qu'indépendants. Ils n'emploient aucun salarié. Donc il n'y a plus de salariés détachés. Alors même qu'on sait bien qu'ils sont dans une situation de salariat. Sauf que là, nous, on ne peut plus contrôler parce qu'ils ne sont pas salariés, ils repartent dans leur pays et là, on est dans une situation où c'est incontrôlable, en fait. Donc, on a un double discours à chaque fois des entreprises qui disent « Bah non, c'est pas normal qu'on ait une concurrence déloyale, mais c'est elles qui entretiennent la concurrence déloyale et qui y participent, en fait. »
Et qui n'ont presque pas le choix de ne pas le faire.
Et qui, quelque part, n'ont presque pas le choix de ne pas le faire parce qu'à un moment donné, sinon, elles vont vous dire « J'ai plus de marché, moi, le prix proposé par mes concurrents est à ce niveau-là. » Et donc, du coup, moi, je dois m'aligner, sinon je meurs, quoi. On peut prendre plein d'exemples comme ça. Le nettoyage des chambres d'hôtel. Le nettoyage des chambres d'hôtel, il se fait à la chambre, en fait. En gros, la facturation d'une chambre par une entreprise de nettoyage à l'hôtel, c'est entre 5 et 6 euros la chambre. Donc du coup, vous comprenez bien que même si la femme de ménage doit mettre une heure pour nettoyer la chambre, eh ben, ils ne peuvent pas la payer l'heure entière, parce que sinon, c'est plus rentable. Donc du coup, ce qu'ils font, ils payent les femmes de ménage à la chambre. Donc on leur compte un quart d'heure par chambre. Or, dans la réalité, il leur faut une demi-heure, voire trois quarts d'heure pour faire une chambre. Et donc, les femmes de ménage font souvent... en réalité un temps plein, mais on les paye à temps partiel parce qu'on va les payer qu'à la chambre. Et donc du coup, si vous n'avez aucun agent de contrôle pour verbaliser et si ensuite il n'y a pas de réponse pénale derrière, le secteur d'activité continue à fonctionner comme cela et on n'arrive plus à enrayer ce fonctionnement-là et ça sera à l'entreprise qui mettra en place le meilleur système de fraude qui va s'en sortir le mieux, quoi. Et donc on comprend que ce n'est pas acceptable, quoi, pour l'état de droit, quoi. Tout simplement.
À ce jour encore, le BTP concentre les trois quarts des fraudes constatées. Fraude à la déclaration de détachement, heures supplémentaires non payées. Mais juridiquement, les choses avancent. La chaîne de responsabilité remonte maintenant jusqu'au donneur d'ordre. Bouygues a ainsi été condamné pour 2 ans de fraude au détachement, à moins de 30 000 euros. Ça lui a coûté 180 euros par travailleur détaché polonais non déclaré. La peur du contrôleur n'est pas encore de mise.
Patrick Libus, vous êtes président de la CAPEB, la Confédération des artisans du bâtiment. Vous jugez que les pénalités en cas de fraude au détachement ne sont pas suffisantes?
Bien sûr, vous avez des sanctions et des pénalités qui ne sont pas à la hauteur. Quand vous avez près plus de 200 salariés qui travaillent en travailleurs détachés illégaux sur un chantier et que la sanction se situe à 30 000 euros...
Ça, c'est un cas réel.
C'est un cas réel. À 30 000 euros, on voit quand même que là, il y a un véritable problème. Comment on peut envisager que 200 travailleurs détachés non déclarés pendant des mois, voire années, ça puisse amener qu'à une sanction aussi minime que 30 000 euros? Ça fait quoi par salarié? Ça fait rien. C'est-à-dire que ceux qui ont généré ce principe-là ont gagné beaucoup plus d'argent en dévoyant le système qu'en respectant la législation et le droit français. Pour certaines entreprises et des grosses entreprises, à ce point-là, c'est rentable. Parce qu'ils savent qu'à partir du moment où ils peuvent utiliser un travailleur dans n'importe quelle condition, qui va pas rechigner à faire les choses, pour eux, c'est un véritable gain. En fait, c'est le principe du Kinex, salarié Kinex. Je prends, j'utilise et je renvoie. Et ça, si on génère un système comme celui-ci, on va affaiblir notre économie, on va dissoudre le système de protection sociale que l'on a dans nos différents pays de la communauté européenne. Et en particulier en France, où on a quand même un système social qui est quand même développé, puissant et fort. Et à partir de ce principe, on va l'affaiblir, ce qui fait que n'ayant plus de salariés en France, en n'ayant que une grosse partie de travailleurs détachés, les charges sociales ne rentreront plus dans notre pays. On ne pourra plus assumer la protection sociale, on ne pourra plus assumer le système d'assurance chômage qui existe et qui est par le système de cotisation, et on ne pourra plus assumer non plus les retraites.
Travail détaché, un cocktail infernal, reportage de Marie Viennot. Nous sommes toujours avec Gilles Savary, rapporteur de la loi de 2014 sur la lutte contre la concurrence sociale déloyale, et avec Séverine Picard, conseillère juridique à la Conférence européenne des syndicats. Séverine Picard, à vos yeux, le problème, c'est l'esprit même de la directive de 1996 telle qu'elle a été conçue, ou est-ce que c'est la fraude ?
C'est les deux. C'est bien évidemment les deux. C'est-à-dire qu'on a une directive qui aujourd'hui est considérée essentiellement comme un outil pour les employeurs, pour les multinationales, pour leur permettre de dégager des profits dans une mobilité transfrontalière. Donc ça, c'est la directive mère qui doit être changée. Elle doit devenir un instrument de protection des travailleurs. Et la révision...
C'était quand même son intention au départ.
C'était son intention, ça a été perverti. Ça a été perverti. C'est une vieille directive, hein, vous l'aviez souligné dans votre introduction. C'est une directive qui date de 96, discutée en 94. À l'époque, on était bien moins nombreux qu'on l'est aujourd'hui. Et l'écart salarial entre les différents États membres était bien moindre qu'il est aujourd'hui. Donc c'était une directive différente, un contexte différent. Il faut que cette directive soit adaptée, soit améliorée, et surtout, il faut inverser la tendance des jurisprudences de la Cour européenne de justice, les interprétations de la Commission européenne, qui font de cet instrument un instrument pour les multinationales. Cet instrument, ça doit être pour la protection des travailleurs. Et pourquoi est-ce que c'est aussi un problème de fraude ? Puisqu'à partir du moment où on clarifie un message politique clair, un principe clair, qui est le principe de l'égalité de traitement, ce n'est juste qu'un principe. Il faut le mettre en œuvre. Et c'est fortement souligné dans votre reportage. On a une main-d'œuvre et un business qui est multinational, qui ne connaît pas de frontières. Et puis on a les inspections de travail qui sont nationales. Donc il y a un problème de balance, si vous voulez. L'un ne répond pas à l'autre. Il y a beaucoup plus de souris que de chats. Et les souris sont beaucoup plus rapides que le chat.
Gilles Savary, est-ce que vous partagez le point de vue de Séverine Picard ?
Oui, tout à fait. Je crois que la directive de 96 a été faite dans un espace européen où il y avait beaucoup moins d'États membres et où les écarts salariaux moyens étaient de 1 à 5, qui sont aujourd'hui de 1 à 10, 1 à 11. Et donc, depuis 2004, les pays de l'Est ont essayé, évidemment, de rattraper leur retard en faisant en sorte qu'une partie de leur population puisse ramener des revenus. C'est tout à fait légitime, il faut bien le voir de leur point de vue. Mais dans un espace social qui est un espace social extrêmement hétérogène, avec de très grandes différences de salaire, mais aussi de protection sociale, qui était aussi un espace de liberté de circulation. Et c'est ce hiatus entre liberté de circulation, espace économique ouvert et absence d'espace social européen qui a amené effectivement à ce que des réseaux se mettent en place pour vendre de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est un trafic de main-d'œuvre, véritablement. Et ça a déstabilisé, y compris le principe concurrentiel de la Commission européenne, qui se retranche souvent sous le principe de la concurrence libre et non faussée, mais là, c'est la concurrence totalement faussée. Et donc, je crois qu'il faut y revenir. Ça n'est pas digne au plan du traitement des salariés, que ce soit les nôtres ou que ce soit ceux des pays de l'Est, parce que en réalité, l'Europe doit être gagnante-gagnante. Donc, et là, elle est gagnante-perdante. Et donc je pense qu'il faut revoir cette directive qui a plus que des trous dans la raquette, c'est des gouffres dans la raquette, et c'est la raison pour laquelle il faut la réviser. Et puis deuxièmement, il y a la lutte contre les abus et la fraude qui a démarré tardivement dans notre pays, parce qu'effectivement, on s'accommodait même de travailleurs détachés qui ne faisaient pas leur ou qui ne satisfaisaient pas leur obligation de déclaration auprès de l'inspection du travail, et qui étaient payés il y a très peu d'années encore, avant nos lois, parce qu'on a responsabilisé et frappé durement les maîtres d'ouvrage, qui étaient payés souvent directement au salaire du pays d'origine, ce qui effectivement était absolument intenable pour nos industriels.
Une question de Marie Viennot.
Oui, vous évoquez justement les peines, pour le moment elles sont extrêmement légères, et quand on évoque justement, donc là, il faut déclarer qu'on a un salarié détaché, mais quand l'inspection du travail arrive à se déplacer sur les entreprises et constate qu'il y a un défaut, en fait dans un cas sur trois, je le disais dans mon reportage, on ne peut pas récupérer l'argent. Donc là-dessus, comment on peut faire évoluer les choses?
Oui, il ne s'agit pas d'avoir un système de peine, encore faut-il pouvoir les recouvrer. Ce n'est pas vrai qu'elles sont légères, puisqu'elles peuvent aller à 500 000 euros.
Ça, c'est le principe.
500 000 euros d'amende, oui, c'est la loi. Ça peut aller jusqu'à 500 000 euros d'amende pour travailleurs détachés non déclarés.
Et pour le moment, ça aucune amende n'est allée jusque-là.
C'est vrai. Ça peut aller aussi, par contre, ça a été fait par l'interruption immédiate par le préfet du chantier.
Non, et ça, c'est très rare aussi. Vous savez, il y a 34 arrêts, je crois, alors, oui, sur un nombre de chantiers. Oui.
Vous avez tout à fait raison, parce qu'il faut peser le pour et le contre. Les choses sont beaucoup plus complexes dans la réalité. Vous arrêtez une entreprise qui bloque un chantier complet, c'est tous les autres artisans qui sont sur le chantier qui paient l'addition avec elle. Donc, c'est assez difficile à mettre en œuvre. Bon, je pense que dans un système complexe, il faut essayer d'aller au plus simple. Personnellement, je le dis depuis un certain nombre d'années, je regrette que l'on accepte le détachement d'intérim. Parce que, en réalité, le détachement qui a existé très largement avant l'Union européenne, qu'elle a d'ailleurs essayé d'encadrer, il s'est dérégulé et dévoyé complètement quand on a pu mettre en place des réseaux de détachement d'intérim qui faisaient à la fois de l'optimisation sociale et de l'optimisation fiscale. On s'installait à Chypre et on proposait des Bulgares aux Français, par exemple. Et ça, c'est une dérégulation complète du détachement. Le détachement, il était fait, c'est un statut qui a été mis en place, inventé, bien avant l'Europe, pour accompagner les échanges internationaux. C'est-à-dire que une entreprise va faire une prospection sur un marché, elle envoie une force commerciale pendant un an. Eh bien, on a inventé le statut du détachement pour que les gens qui y aillent ne perdent pas leurs droits sociaux chez eux et puissent revenir à la maison et être réemployés dans l'entreprise. Idem quand on faisait des échanges, par exemple, d'artistes, un chef d'orchestre.
Maintenant, c'est une spécialité, voilà. Salarié détaché. Et pour certains salariés, c'est une spécialité, ils ne font que ça.
Maintenant, on vend du salariat détaché sans qu'il ait le moindre rapport avec une activité permanente dans son métier, de l'entreprise mère, c'est-à-dire qu'une entreprise d'intérim polonaise va nous proposer un plâtrier, un plombier, un chaudronnier, un soudeur. Elle n'est pourtant pas entreprise de soudure, elle n'est pas entreprise de plomberie. Et je pense que si on interdisait le détachement d'intérim à ce motif, c'est-à-dire qu'en réalité c'est du faux détachement, c'est pas du détachement d'accompagnement des échanges, mais c'est du détachement de placement de personnel, et évidemment qui nous amène à récupérer des gens qui sont souvent au chômage et qui n'ont aucune antériorité de travail, ou si elles l'ont, c'est extrêmement faible dans leur pays, c'est-à-dire qu'ils ne contribuent pas à l'économie de façon permanente. Eh bien, je pense que si on supprimait simplement le détachement d'intérim à ce motif, que c'est un dévoiement du détachement, eh bien, je pense qu'on aurait besoin de beaucoup moins d'inspecteurs du travail et ça serait beaucoup plus simple.
Séverine Picard, ça vous semble une bonne piste d'interdire le détachement d'intérim ?
Je pense que si on appliquait les règles, le détachement d'intérim n'existerait pas de toute façon. Donc on peut répéter de manière plus claire et plus courte dans la loi que l'intérim, ce n'est pas du vrai détachement, mais à mon sens, ça devrait déjà être le cas.
C'est la raison pour laquelle on n'en discute même pas au niveau européen, ça ne fait pas partie des sujets sur la table en fait.
Ça fait partie des sujets sur la table, ça a été évacué assez tôt au début des discussions, puisque nous à la CES, nous avions cette demande de clarifier que l'intérim n'est pas du véritable détachement. Ça a été évacué assez tôt dans les discussions. Par contre, il y a une autre proposition qui est discutée au sein du Parlement européen, c'est de dire deux choses. La première, c'est que quand vous êtes un travailleur intérimaire, vous bénéficiez d'une égalité de traitement complète avec un travailleur local dans le pays où vous travaillez. Donc c'est de facto, ce n'est plus sous un régime exceptionnel du détachement, c'est une égalité de traitement complète. Le deuxième point qui est discuté, c'est d'interdire ce détachement en cascade, donc lorsque l'agence est située dans un pays différent que là où le travail va être exécuté et qui recrute son travailleur encore dans un pays tiers. Le seul objectif de ces relations triangulaires, c'est de complexifier la relation d'emploi, de faire en sorte qu'on n'arrive plus à tracer qui emploie qui.
Et ça pourrait être interdit ou c'est en discussion ?
C'est en discussion au sein du Parlement européen. Ce sont deux dispositions qui sont assez ambitieuses, qui ne sont pas aussi claires que le principe d'interdiction d'agence intérimaire, mais qui néanmoins vont dans la bonne direction. Je ne vous cache pas que les discussions vont être assez compliquées sur ces points-là.
Gilles Savary, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du dévoiement du travail détaché ?
L'ampleur du dévoiement, c'est que, en réalité, c'est-à-dire ce qui rend les choses politiquement difficiles vis-à-vis des pays de l'Est, la masse de travailleurs détachés est assez faible sur l'ensemble des travailleurs en Europe. On la considère qu'elle est entre 0,7 et 1% des travailleurs. Seulement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une augmentation fulgurante du travail détaché et sous la forme de la prestation de service international, c'est-à-dire le détachement d'intérim. C'est-à-dire que le détachement n'est pas un phénomène massif, mais ce qui devient massif et exponentiel et qui a éveillé l'attention de l'Union européenne, enfin, après qu'on l'ait assiégé et que l'on ait fait surtout des législations unilatérales, notamment la législation française, qui va être en gros le noyau dur de la révision de la directive, qui va y ajouter d'autres dimensions, c'est parce qu'effectivement la dérégulation du marché est totale sur un espace social qui n'est pas un espace social homogène. Nous n'avons pas d'Europe sociale parce que nous avons des systèmes sociaux très différents et d'une générosité très différente avec des niveaux de développement des pays qui ne peuvent pas supporter les mêmes systèmes sociaux. Mais par contre, nous avons un marché économique et une liberté de circulation totale. Et on n'a pas trouvé le bon réglage pour faire en sorte que effectivement, on puisse compenser ces différences sociales tout en assurant la liberté de circulation. Et le projet de révision de la directive qui est sur la table a ceci d'intéressant, je crois que ça a été dit par Séverine Picard, c'est qu'il commence à s'attaquer à des problèmes un peu durs, et en particulier, son postulat, c'est à travail égal, rémunération égale, alors que jusqu'à présent...
Seulement le salaire. C'est-à-dire le salaire 96, plus les primes et tout ça aussi, hein, c'est ça le...
C'est le salaire plus les primes, mais la directive de 96 avait deux limites qui justifie complètement sa révision. La première, c'est qu'elle disait qu'on devait satisfaire au salaire minimum du pays d'accueil. Certains pays d'accueil n'ayant pas de salaire minimum ou très faible faisaient une concurrence internationale sur le marché commercial impitoyable. C'est comme ça que les abattoirs bretons sont trouvés mis en difficulté par les abattoirs allemands. Pas simplement les abattoirs bretons, les abattoirs belges, les abattoirs hollandais, pas les abattoirs allemands, puisque quand il n'y avait pas de salaire minimum, on recrutait des Bulgares à 2-3 euros de l'heure. Donc ça, c'est la première limite. Et la deuxième limite, c'est que même au SMIC français, un travailleur détaché, aujourd'hui, peut être beaucoup moins cher, même s'il est parfaitement légal, donc au SMIC, c'est-à-dire au salaire minimum français, beaucoup moins cher que le niveau de rémunération dans le métier donné en France. Par exemple, nous payons, nous, des soudeurs, de façon beaucoup plus importante que le SMIG.
Mais c'est l'exemple, dans mon reportage, vous savez, sur les chaudronniers, par exemple, tout le monde m'a dit lors de mon reportage qu'on était passé d'un prix horaire de 15 euros à 11 euros. Donc à 15 euros, en fait, on ne trouve plus de salarié français qui veut faire ce travail, qui est un travail extrêmement pénible. En revanche, on trouve un salarié bulgare ou ukrainien pour le faire. Donc ça permet, on voit bien aussi que ça dérègle aussi les marchés du travail, d'avoir cette possibilité, en fait, de baisser les prix, notamment sur la main-d'œuvre qualifiée. Et ce que je voulais ajouter également, c'est que c'est très grave pour l'avenir sur la formation, parce que du coup, on ne forme plus les gens dont on peut trouver rapidement la ressource en allant à l'extérieur. Je voulais d'ailleurs vous poser cette question, Séverine Picard. Est-ce que les pays qui nous envoient leur main-d'œuvre sont réellement gagnants, en fait, à ce jeu ?
Non. Absolument pas, et la position syndicale est très claire. Nous, à la Confédération européenne des syndicats, on parle d'une seule voix sur ce sujet. D'ailleurs, ce matin, j'ai reçu une déclaration des organisations syndicales du Visegrad, donc de Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie. C'est une déclaration très courte, mais fulgurante. Les termes qu'elle emploie sont très forts. Elle parle de discrimination, elle parle de situation immorale, elle parle de montée des extrémismes. Et la seule chose que mes collègues dans les pays envoyeurs demandent, c'est une égalité de salariale pour le même travail. Donc sa déclaration est envoyée pour faire pression à leur gouvernement qui vont devoir décider de la situation lundi.
Mais est-ce que les syndicats polonais peuvent vraiment avoir du poids par rapport à l'État polonais qui, lui, a une position très tranchée ?
Ah, c'est très compliqué. Les syndicats polonais sont sur les barricades. Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille sur le sujet et je ne les ai jamais vus aussi actifs et aussi vocaux sur ce sujet. Donc, ils posent une pression énorme sur le gouvernement polonais en disant très ouvertement « Vous, gouvernement polonais, ne représentez pas les travailleurs polonais ». Quant à savoir si la Pologne va changer de position au sein du Conseil, ça me paraît peu probable. Mais il est clair qu'il y a une grosse zone d'inconfort pour les représentants ministériel polonais. Pourquoi cette position des syndicats ? Vous n'avez pas réussi à interviewer beaucoup de travailleurs détachés, ou en tout cas avec beaucoup de difficultés dans votre reportage, puisque c'est une...
Je n'avais pas de traducteur ukrainien, polonais, bulgare, roumain.
Outre ça, ce sont des travailleurs qui sont extrêmement précaires et stigmatisés, donc ils ne vont pas volontairement se montrer. Par contre, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est une question de dignité, c'est-à-dire que pour les Polonais, pourquoi être payé 11 euros au lieu de 15 euros. Donc on les traite comme les travailleurs de deuxième zone. Ils craignent, et ils ont raison, un nationalisme croissant. Je crois que c'est quelque chose qui était sous-jacent dans votre reportage également, une certaine méfiance, voire même jusqu'à l'agressivité de leurs collègues nationaux. Il y a peu de bénéfices économiques du détachement en Pologne, parce que le détachement, ou en tout cas le faux détachement, c'est le résultat d'une construction juridique très alambiquée et très artificielle des grosses multinationales qui sont détenues à l'Ouest et dont les politiques salariales sont définies à l'Ouest. Elles vont créer des filiales, des petites structures, des entreprises boîtes aux lettres en Pologne dans le simple but de recruter une main-d'œuvre bon marché. Ce qui fait que les profits tirés de cette concurrence déloyale, ces profits restent à l'Ouest. Ils ne pénètrent pas dans l'économie polonaise. Les salaires qu'on promet aux travailleurs polonais, ce ne sont pas les salaires qu'ils reçoivent. Ils reçoivent des salaires amputés des cotisations sociales, qui souvent ne sont pas payées d'ailleurs, amputés de l'indemnité pour des logements qui sont au prix du Ritz à Paris, mais qui sont dans des conditions tout à fait épouvantables. Et puis il y a des problèmes de société. C'est-à-dire que ces travailleurs sont des travailleurs qui sont tellement précaires, qui partent sur les routes, sur les chantiers, dans les hôpitaux, dans les services aux personnes, pendant des mois et des mois, qui ne reviennent pas chez eux. Au niveau de la vie familiale, c'est très compliqué à gérer. Là, on parle d'une mobilité qui est subie et non pas choisie. Donc, au niveau de la vie familiale, c'est très compliqué à gérer. Moi, j'ai rencontré une femme polonaise qui s'occupe d'une personne âgée en Belgique. Sa vie, c'est un drame personnel. Un drame personnel causé uniquement par cette situation précaire du détachement dont elle ne retire que très peu de bénéfices.
Mais alors, Gilles Savary, la réforme de la directive, là, telle qu'elle se précise, est-ce qu'elle va répondre à ces problématiques, d'après vous ?
Assez audacieuse. La vraie question qui se pose, c'est qu'elle rajoute des obligations dont la vérification et le contrôle ne vont pas être très simples.
Ben oui.
Je dois dire d'abord, et je voudrais leur rendre hommage, que nos services de l'inspection du travail ont fait un travail considérable pour se former.
Alors, l'un des problèmes, je l'ajoute, c'est que ça les détourne même du contrôle, finalement, sur le territoire français, oui. Des problèmes juste entre entreprises françaises et salariés français, en fait, le temps qui passe sur le détachement.
Ce sont des fraudes complexes aussi, quoi. Oui. Ce sont des fraudes complexes extrêmement difficiles à dénouer. Ils se sont lancés sur le chantier. En 2013, avant ma loi, il y avait à peu près 300 contrôles par mois, et on est arrivé à 1500 aujourd'hui en régime de croisière, donc c'est quand même assez considérable. Mais pour dénouer la fraude, même quand elle est constituée, même quand elle est évidente, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle soit juridiquement opposable devant un tribunal ou à une sanction, c'est beaucoup plus compliqué. Il a été tout à l'heure effectivement évoqué les bureaux de liaison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on veut vérifier que des personnels sont bien des personnels régulièrement employés dans leur pays, eh bien il faut en passer par Paris. Et Paris interroge un bureau de liaison, c'est-à-dire, par exemple, l'administration polonaise ou l'administration roumaine.
Gilles Savary, on en revient à l'idée finalement que quand on essaye de penser à une révision de cette directive, c'est une farce, qu'on ne va rien changer.
Non, je ne vous dis pas que c'est une farce, parce que les choses se sont beaucoup assainies déjà sous la pression de nos législations.
Oui, on parle de l'avenir, parce qu'on voit que même assainie, la situation n'est pas idéale.
La situation n'est pas idéale, mais je veux dire, elle est déjà pas mal assainie. D'abord, alors évidemment, toutes choses égales par ailleurs, quand les lois sont respectées, en dessous de 1700 euros de salaire, un travailleur français est aujourd'hui moins cher qu'un travailleur détaché, parce qu'il faut le loger, on a donné des obligations extrêmement importantes. On a quand même, je crois, mis en place quelque chose de très dissuasif vis-à-vis des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre qui n'étaient pas du tout dans ces dispositions. Encore une fois, en 2013, on allait recruter des gens, on les déclarait pas.
Dissuasif, 30 000 euros pour Bouygues cette année, pour avoir fait travailler...
Ça, c'est peut-être la liquidation du passé. Hein. En tout cas, je suis d'accord avec vous, mais je veux dire... tout le monde vous dira, et je pense que ça a été dit d'ailleurs dans votre reportage, que depuis qu'on a durci les législations nationales, on a quand même réussi à assainir en partie et de façon extrêmement sensible un certain nombre de fraudes qui étaient des fraudes éhontées. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas les déclarations de détachement qui étaient pourtant obligatoires depuis 1996 et on payait les gens au salaire du pays d'origine, dans notre pays, massivement. D'ailleurs, à partir du moment où la loi est sortie en 2014, on a eu une augmentation des déclarations et des mises en conformité qui fait que certains ont pu dire le travail détaché flambe parce qu'on a plus de 25% de déclarations de détachement. C'est en réalité, une mise à niveau de ce qui était de la fraude intégrale.
Je vais repasser la parole un très court instant à Séverine Picard. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que les syndicats comptent encore sur l'Union européenne pour faire progresser les droits sociaux? En un mot.
Oui, ça va être difficile en un mot. Je dirais oui. Nous sommes profondément pro-européens. Nous croyons à la liberté de circulation des travailleurs. Nous croyons beaucoup moins aux frontières. Nous avons peur des montées du nationalisme. En même temps, il faudrait être sourd et aveugle pour pas entendre la crispation qu'il y a au niveau de notre base, puisque c'est pas ce que l'Europe nous donne. Le marché intérieur devrait être une opportunité, c'est devenu un danger pour nous.
Vous m'avez dit, pendant qu'on préparait cette émission, que ça pouvait faire exploser l'Europe, ce dossier des salariés détachés.
Il n'y a pas de vision politique de la directive. La semaine prochaine, ça va être un gros problème.
Séverine Picard, merci. Merci également Gilles Savary. Je précise que vous étiez, vous, en direct de Bordeaux grâce aux moyens techniques de France Bleu Gironde. C'était le magazine de la rédaction, Travail détaché, un cocktail infernal, avec des reportages de Marie Viennot, Annie Brault à la réalisation et Alexandre Dang à la technique à Paris. Vous pouvez retrouver ce magazine sur franceculture.fr.